Alors, puisque France Inter joue la carte de l'information et du défi ce matin pour dire le plastique non merci, c'est l'occasion, comme le faisait ma grand-mère, d'établir une petite liste des choses à changer quand il s'agit de boire et de manger. Plus de bouteilles d'eau, ça c'est fait. Plus de couverts en plastique quand on reçoit ses amis, ça s'appelle l'élégance, me disait-elle. Plus de légumes sous plastique, attendez, ça me rappelle quelque chose ça. Privilégier les aliments en vrac sans emballage. Bah ouais, effectivement, acheter à la découpe le fromage, la viande, le poisson. Mais oui, utiliser un filet à provision. En fait, j'ai l'impression d'être ma grand-mère, soudain, c'est ça. Retrouver la joie de l'inox, du verre, du bois, du torchon, tout simplement. Le torchon qui recouvre les plats, vous vous souvenez de ça? Et les yaourts en pot de verre, moins jetés, conservés, garder les restes. Ma grand-mère gardait toujours les restes. Dire non aux repas à domicile, sauf si les contenants sont en papier recyclé. Les repas livrés à domicile, inutile de vous dire qu'elle n'avait pas de téléphone portable, encore moins d'application. Faire la cuisine soi-même, grand-mère. Si la première étape pour passer au non-plastique, c'était ça, ne pas revenir en arrière, mais se souvenir d'hier, d'avant-hier, penser à sa grand-mère.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas oublié les traditions de la cuisine d'antan. Top chef pour beaucoup, élu meilleur chef du monde il y a 4 ans pour les Happy Few. Ses restaurants brillent de leurs belles étoiles en France et en Grande-Bretagne. Son nouveau livre de recettes Joya, du nom de son nouvel établissement, sort demain aux éditions Cherche Midi. Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Est-ce qu'elle était non plastique, votre grand-mère?
C'est de ma grand-mère que vous parliez. Là, j'avais l'impression de la revoir. Quoi. Mes grand-mères d'ailleurs, parce que les deux étaient comme ça. Et c'est vrai, après tout ce temps-là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et comment on a dérivé à ce qu'on est à aujourd'hui, c'est quand même un peu affolant.
Vous essayez de le relever, vous, en tant que chef, les défis du non-plastique. Et si je me permets de vous poser la question, Hélène, c'est parce que je sais qu'en tant que citoyenne, vous êtes très sensible aux questions
alors,
de l'environnement.
En tous les cas, je le deviens de plus en plus, parce que je pense que nous, cuisiniers, on a une vraie responsabilité, en effet. Je pense que le manger, quoi, la nourriture, c'est un tel vecteur de partage et de communication que par là on peut dire beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que dans mes cuisines je surveille assez ou quoi? Des fois, je me culpabilise et je me dis que non, c'est peut-être pas assez, qu'on pourrait quand même aller beaucoup plus loin et qu'on va y penser de plus en plus.
Ça voudrait dire réduire la quantité d'emballage, en fait réduire le gaspillage?
Ouais, réduire le gaspillage, ça c'est sûr. Oui, le réduire aussi, en effet, on prend très facilement du papier film pour emballer pour protéger, pour emballer, pour conserver.
Alors ça c'est non, Hélène. C'est non.
Mais c'est un vrai travail culturel aujourd'hui, parce que nos jeunes, on leur a appris comme ça, quoi. Donc, il faut prendre. Ouais, c'est vraiment un projet d'éducation.
Vous diriez que la survie d'un métier comme le vôtre dépend aussi de la protection de l'environnement, Hélène Darroze?
Le nôtre plus que tout, certainement, mais beaucoup d'autres aussi, et puis c'est pas la survie d'un métier, c'est la survie de génération, c'est la survie d'une planète, aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on ouvre les yeux, tout ce qu'on vit en termes de climat, avec des hauts et des bas, dans les températures, avec de la neige au printemps, et puis des maillots de bain au mois de février. C'est quand même une aberration, quoi.
Ça veut dire que chaque fois, en fait, que vous pensez aux fruits et légumes qui sont vendus sous plastique dans la grande distribution, qui sont traités notamment par des pesticides, que le glyphosate est toujours autorisé, tout ça, vous y pensez à chaque fois, ça vous inspire quoi?
Moi, j'y pense pas à chaque fois parce qu'il se trouve que quand même, j'ai déjà fait une sélection de producteurs qui fait que mes légumes, ils arrivent pas en plastique, que mes légumes, ils respectent la saison, qu'on est dans des conditions de culture qui sont plus que respectables et plus que responsables. Donc, c'est vrai que j'achète pas mes légumes au supermarché, je dois l'avouer, quoi, c'est clair.
Ça pose la question du goût.
Je vais sur les marchés, bien sûr que ça pose la question du goût. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, j'étais dans un restaurant à Londres et à la fin je demandais une assiette de fruits de saison et j'ai eu une espèce de grosse fraise. elle était immangeable parce qu'elle avait aucun goût, quoi. Il faut attendre, quoi. Je veux dire, une tomate, ça se mange à partir du mois de juillet. C'est pas la peine d'espérer faire une salade de tomates avant, quoi. Donc, il faut juste respecter l'ordre des choses. Et il y a tellement de plaisir, en plus, à respecter l'ordre des choses. Je veux dire, attendre les premières asperges, pour moi, mais c'est un vrai bonheur. Et croquer dans la première asperge, c'est presque jouissif. Donc voilà, chaque chose en son temps.
Quelque chose me dit qu'on va en reparler d'asperges tous les deux, parce que moi, j'aime quand vous parlez d'asperges. Les générations futures, vous qui êtes mère, Hélène Darroze, ça vous arrive de vous dire qu'elles auront peut-être oublié ce que c'est que le goût d'un bon produit?
Non, parce que j'ai l'impression que quand même, on devient de plus en plus responsable, on prend de plus en plus conscience. Moi, je trouve qu'il y a une vraie évolution quand même entre aujourd'hui et ce qui se passait il y a 15 ans, quoi, au niveau du goût, au niveau de la recherche des bons produits, au niveau de l'envie de bien cuisiner.
De et la pas... prise de conscience.
Ouais, je trouve que moi, en tous les cas, je dis mes amis, mais quand c'est mes amis, c'est pas ceux qui sont dans mon milieu, quoi. Je pense qu'on a tous de plus en plus l'envie, le besoin et la prise de conscience d'aller sur les marchés, de cuisiner des choses de saison, de cuisiner sainement des choses qui ont du goût, quoi.
Qu'est-ce que c'est un bon produit pour vous, tiens?
Un bon produit, c'est un produit de saison avant tout, quoi. Et puis, c'est pas forcément un produit luxueux, c'est pas forcément du turbo, un maquereau par exemple. C'est un grand plaisir pour moi de cuisiner du maquereau, de cuisiner des abats, de cuisiner des choses qui sont pas forcément des produits de luxe, quoi. Mais un bon produit, c'est un produit qui respecte la saison, qui respecte ou des modes d'élevage ou des modes de culture responsables.
Comment est-ce que vous avez appris à les reconnaître, ces bons produits, vous, dans votre histoire personnelle?
Moi, il faut vous dire une chose, moi je suis née dans une cuisine, quoi, hein, donc je suis la quatrième génération d'une famille de cuisiniers et je suis née dans une cuisine, donc...
Alors quand vous dites que vous êtes née dans une cuisine, vous êtes littéralement née dans une cuisine ou vous êtes née à l'hôpital?
Non,
et puis on vous...
Non, je suis née à l'hôpital et voilà.
Okay, moi je suis très littérale, Hélène.
Non, je suis née à l'hôpital, mais j'ai très vite été dans la cuisine. Donc voilà, moi, j'ai, depuis toute petite, j'ai été confrontée à des choses qui, d'ailleurs, peuvent paraître parfois un peu brutales et brusques et choquantes. Mais moi, par exemple, l'automne, le dimanche soir, dans la cuisine de mon grand-père, je voyais les chasseurs arriver, oui, avec des bêtes en sang et en peau qu'on accrochait, que ce soit des sangliers, des chevreuils, des lièvres. On les accrochait comme ça dans les chambres froides et le sang coulait encore. Et c'est vrai que c'était peut-être brutal comme monde, mais voilà, régulièrement, j'assistais à la tue cochon. J'entendais bien sûr le cochon hurler, etc. Mais et puis dès qu'il était tué, on le cuisinait. Et d'ailleurs, cette tradition, je l'ai perpétuée longtemps avec des amis dans les Landes. Et
ça vous a jamais traumatisé, voilà, le cri du cochon, vous l'entendiez pas la nuit, Hélène Darroze?
Non, ça m'a jamais trop traumatisé. Non, je dois reconnaître que je ça m'a pas. Non, parce que je pense que c'était la vie et qu'on me le présentait comme ça, quoi, que c'était, mais je veux dire, toute petite, j'ai vu tuer des poulets, parce que c'était un monde rural et c'était une confrontation à la vie comme ça, voilà. Et puis je voyais les paysans qui arrivaient tous les matins avec leurs œufs, avec leurs lait frais, quand c'était la saison, on va revenir aux asperges, quand c'est ou des petits pois ou des fèvettes et
l'automne,
c'était les cèpes qu'ils allaient, voilà, c'était, j'étais confrontée à ça.
J'ai l'impression que la question de la vocation, vous ne voulez jamais posé. En fait, c'était une évidence.
Non, c'était pas une évidence parce que j'y suis pas arrivée comme ça tout de suite. L'évidence. L'évidence, c'était très ringard. Hein, c'était très. Mais l'évidence, dans la tête de mon papa en tout cas, et puis peut-être certainement de la famille, c'était que mon frère soit cuisinier et que moi je sois pharmacien comme maman. Voilà, ça c'était l'évidence.
Aïe.
Donc la question, oui, elle a dû se poser à un moment donné. Et je pense que quand j'ai annoncé que j'allais faire de la cuisine, il y a eu un petit temps d'adaptation, on va dire.
Cette question de la vocation, il se trouve qu'on l'a déjà posée dans cette émission, et pas à n'importe qui, à quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'appelle Alain Ducasse, et c'était donc le 11 octobre 2017.
À 12 ans, j'étais dans les jupes de ma grand-mère pour lui expliquer que les haricots verts, ils étaient certainement trop cuits, ce qui était vrai d'ailleurs, parce que on n'avait pas la maîtrise de la cuisson. Le poulet rôti, il était aussi trop cuit, mais il était trop délicieux quand même. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça en regardant et en essayant de comprendre pourquoi c'était si bon. Mais c'était si bon parce que les produits étaient bons à l'origine. On ne peut pas rendre bon quelque chose qui ne l'est pas ou qui a été mal élevé ou mal cultivé. On ne peut pas le rendre bon.
Mmh. Alain Ducasse, à ce micro, il y a un an et demi. Qu'est-ce qui retient votre attention dans ce qu'il dit,
Hélène Darroze?
C'est ce qui m'a appris il y a très longtemps, puisque j'ai eu la chance quand même de travailler avec lui et justement ce goût du produit, en effet, il l'a encore exacerbé chez moi, quoi, hein, parce que je retrouvais, moi c'était donc au Louis XV à Monaco, je retrouvais tout ce que j'avais appris depuis toute petite, mais à un niveau encore plus rigoureux, parfait. Enfin, c'était assez extraordinaire. Et en effet, il m'a appris. Je sais pas si je tiens la phrase de lui ou si elle m'est venue, mais en tous les cas, si elle m'est venue, c'est grâce à ce que j'ai pu voir chez lui, c'est que voilà, dans l'assiette, c'est pas le chef, la star, c'est le produit, quoi. C'est évident. Sans un bon produit, on n'est rien, on fait pas de bonne cuisine. C'est clair.
Il vous a appris la confiance en vous aussi, Alain Ducasse.
Oh, ça, je sais pas, parce que la confiance en moi, je sais pas si je l'ai tous les jours, quoi. Une fois, il m'a dit, vous êtes une terroriste du goût, mais je lui ai dit, mais c'est à cause de vous, hein. C'est pas, voilà. Donc, il m'a appris, voilà, c'est ça, ne rien concéder au goût et au produit. Donc, il m'a appris aussi, ce que j'ai trouvé remarquable chez lui, c'était cette force de travail, quoi. C'est quelqu'un qui en plus ne laisse jamais rien au hasard. Il est toujours derrière le petit détail, la remise en question, voilà.
Et on comprend que pour lui comme pour vous, l'amour de la cuisine est lié à une histoire familiale, à un terroir aussi.
Oui. On vient du même terroir, hein. Alors, il vient des Landes comme moi, et je pense que dans ces Landes justement l'amour du bien recevoir et du bien manger et du partage à travers tout ça, je pense que c'est une région magnifique pour ça. Et je pense que,
À quel produit vous pensez, là, puisque le produit est une obsession pour nous ce matin, dans la cuisine des Landes?
En ce moment, comment ne pas parler de l'asperge verte, de l'asperge blanche des Landes, pardon.
Encore
je viens de raccrocher avec mon frère qui me dit, j'étais sur le marché, je t'en ai acheté 2 kilos, je te les envoie. Donc vous voyez, je pense à ça, je pense... En ce moment, à Saint-Jean-de-Luz, on a de très belles sardines. Donc, on va commencer les anchois, le merlu, bien sûr, qui se pêche à la ligne, voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous lui apportez à cette cuisine du Sud-Ouest? Comment la réinventer, en réalité?
Moi, ce que j'y apporte, c'est moi, c'est mes émotions, c'est ma sensibilité, c'est ce dont je suis fait. Et ce dont je suis fait, c'est à la fois ma culture, en effet, mon éducation du Sud-Ouest, mais c'est aussi tous mes voyages, toutes mes rencontres. C'est des moments forts que j'ai pu passer à l'étranger. C'est ces 3 ans auprès d'Alain Ducasse où là, il m'a confié, il m'a mis dans les mains d'un de ses chefs formidables qui s'appelait Mario Muratore, qui était italien. Et donc, j'ai partagé 3 ans de ma vie dans la famille de Mario avec sa maman, Léna, qui m'apprenait une cuisine italienne paysanne. Et voilà, donc, toutes ces émotions-là, tout cet acquis-là, je le mets dans ma cuisine.
Celle qui n'apporte rien à personne dans cette émission, peut-être que vous la connaissez. Est-il encore besoin de la présenter? C'est la culture et son actualité inutile, sans imagination, mais touchante. Parfois, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 27 mars?
Bienvenue au Louvre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
Elle préfère l'amour aux mers. Le musée du Louvre-Lens inaugure aujourd'hui la plus grande expo jamais consacrée en France à l'auteur antique de l'Iliade et l'Odyssée. Au total, 250 pièces réunies jusqu'en juillet pour tirer le portrait et percer les mystères du prince des poètes, dont l'existence même prête à discussion, d'objets archéologiques en œuvres modernes. L'événement met en scène Ulysse, Achille, Hector et combien d'épithètes homériques pour interroger l'influence du poète et de son œuvre sur nos sociétés à travers les siècles. Impec.
Je crois profondément au pouvoir du cinéma. Le cinéma n'est pas seulement fait pour divertir, pour faire rêver. Il est aussi fait pour faire réfléchir.
La réalisatrice libanaise Nadine Labaki a été choisie pour présider le jury de la section Un certain regard lors de la 72e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai prochain. Elle succède ainsi à Benicio del Toro. Découverte en 2007 sur La Croisette avec son premier long métrage Caramel, la cinéaste avait reçu l'année dernière le prix du jury grâce à Capharnaüm, émouvant portrait des enfants des rues de Beyrouth, nommé par la suite au César, au Golden Globe et aux Oscars. Baisse dito, ce qu'on espérait tout bas, à l'occasion des 10 ans de l'album Music for Men, porté par le titre culte Heavy Cross, l'excentrique diva américaine a annoncé hier la reformation de son groupe The Gossip. Baisse dito va donc retrouver ses acolytes, Nathan Hauchel et Anna Billy, pour une tournée anniversaire qui passera deux fois par la France en juillet au Festival de Bourgas et à la salle Playel à Paris. Le trio promet un moment plein de sueur et de provoque. Let's rock! Et mercredi sans plastique, le ciné c'est fantastique car aujourd'hui dans les salles on décolle avec Dumbo, remake en prise de vue réelle du classique de Disney signé Tim Burton. On vibre avec Synonyme, premier long métrage radical bouleversant de l'israélien Nadav Lapid, récompensé de l'Ours d'Or à la Berlinale. Et sinon on tombe sous le charme de C'est ça l'amour, ce si beau portrait d'un père courage incarné par Bully Lanners et signé Claire Burget. Surtout la chef Hélène Darroze, invitée de Boomerang ce matin.
La chef,
ça tombe
la
très
cuisinière.
Bien. La cuisinière, je dois dire. Ouais. Pourquoi pas la chef ?
Parce que je déteste ce côté militaire et cette ce que qu'on met dans notre métier. Donc, je suis une cuisinière.
Ah, c'était très intéressant quand même.
Mais bon, okay,
vous savez pourquoi ? Bah oui, parce qu'on vous connaît pour beaucoup par Top Chef.
Oui, ouais, alors Top Chef, c'est le seul.
C'est la seule concession.
C'est le seul
vous
endroit
faites.
Où on m'appelle chef parce que j'ai pas le choix. Ils veulent pas autrement. Mais moi, dans mes cuisines, on m'appelle Hélène. Voilà.
Bon, alors Hélène, on a un problème. Il y a une rumeur qui court en ce moment.
C'est quoi la rumeur ?
Il y a une rumeur terrible et qui a enflammé les internets avant-hier. Il paraîtrait que vous ne participeriez peut-être pas à la prochaine saison. Alors, fini le suspense, vous nous devez la vérité. La France entière vous écoute.
Mais attendez,
écoute.
Mais la question
les
ne s'est
Français
pas encore posée. La question ne s'est pas encore posée, donc...
Vous savez que moi, je n'ai pas la télé, donc ça m'intéresse
donc,
d'autant plus.
La question ne s'est pas encore posée, donc je ne peux pas vous donner de réponse, parce que pour l'instant, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne sais même pas si... Si M6 est là-dedans non plus, pour l'instant, on va laisser finir cette saison-là. On va voir comment elle se finit. Elle a plutôt pas mal commencé, donc j'espère qu'elle se finira comme elle a commencé. Puis on verra à ce moment-là.
Ça fait depuis 2015 que vous participez à cette
fois,
émission.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous, à titre personnel ?
Plein de rencontres. D'abord, de faire mon métier différemment.
Ah, c'est vrai ?
Je trouve que c'est arrivé un moment de ma carrière où ça a apporté un peu de renouveau, j'ai transmis ma passion autrement et chaque année les tournages c'est une parenthèse de 3 mois très sympathique dans la vie.
C'est une émission très populaire, Hélène Darroze, qui nous dit quelque chose aussi de la façon dont a évolué l'image de la cuisine et de l'art culinaire qui est depuis quelques années très en vogue. Non.
Ouais, oui. Ça c'est sûr que je pense que c'est une émission qui a fait que notre métier a été vu autrement qu'une voie de garage, qu'on pouvait.
Et je vous ai entendu dire souvent que quand vous étiez adolescente, la cuisine c'était un choix par défaut. Pour beaucoup.
Ah ben oui, j'ai souvent vu dans ma jeunesse que c'était plutôt une voie de garage.
Alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ça a changé ?
On a montré comment à travers ce métier-là on pouvait être créatif, comment on pouvait s'épanouir, comment on pouvait se remettre en question, comment on pouvait...
Et que c'était peut-être un art, je me dis.
Alors l'art, pour notre métier, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser.
Non plus ?
Non. Je
ni
préfère
chef,
dire
ni
qu'on
artiste.
Est des artisans. Après, où est la limite entre l'artisanat et l'art ? Je sais pas. Mais on a une matière première et on la transforme. Je suis d'accord, il y a des grands chefs, il y a des chefs qui sont des artistes. Je pense à deux ou trois comme ça. Je leur donne en effet l'attribut d'artiste.
Vous pensez à qui ?
Oh, je pense à un Gagnère, je pense à un Jean-Marie Amat qui n'est plus hélas, mais je pense à des gens qui sont un peu fous, qui poussent les limites et voilà. Mais
vous n'êtes pas folle, vous, jamais, dans votre cuisine ?
Je sais pas, je suis plutôt sage. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je préfère parler d'artisanat.
Comment vous expliquez que cette profession ait si longtemps été quasiment réservée aux hommes? La profession de cuisinier.
Bah parce que c'est quand même un métier qui fait qu'on n'est pas là le soir pour lire la petite histoire, pour donner le bain.
Donc ce sont ces traditions patriarcales.
Oui, mais que pas forcément imposées par les hommes, que les femmes se mettent aussi. Enfin, je veux dire, on se met des limites, on se met des obligations, et il faut juste accepter le fait qu'on peut être maman autrement.
Et moi, je remarque, à chaque fois que vous êtes invité sur un plateau ou qu'il y a une interview de vous, on vous demande souvent, avec un métier comme le vôtre, comment faites-vous pour vous occuper de vos enfants? C'est une question qui revient tout le temps, obsessionnelle, ça vous gonfle?
Un peu. Donc on y passe, on fait joker.
Vous marquerez là.
Non, je suis peut-être une maman, on fait peut-être pas les choses comme tout le monde, mais on les fait bien et dans ma famille il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'épanouissement et beaucoup d'équilibre et voilà et c'est super quoi.
En tout cas, vous êtes devenue une sorte de modèle. Par conséquent, à tel point, Hélène Darroze, que vous avez une Barbie à votre effigie. Ça ne m'a pas échappé. C'est que mon accomplissement en soi. Personnellement, j'attends la mienne.
Ce jour-là, je dois dire que j'étais...
Ah, c'est vrai ?
Ah bah, attendez, quand j'ai eu ma Barbie, c'était un aboutissement. Je rigole.
Et puisque vous allez désormais vous trouver entre les mains de petites filles et de petits garçons, quel genre de modèle est-ce que vous avez l'impression d'incarner ?
Écoutez, j'espère que j'incarne le modèle de l'humilité, de la générosité, de... Voilà, je suis quelqu'un... Moi, mon métier, c'est de donner du bonheur, donc j'espère que j'y arrive et qu'on me reconnaît en ça. Voilà, j'aime le partage, j'aime le don de soi, j'aime faire plaisir, donc j'espère que c'est ça, et j'espère le faire avec beaucoup d'humilité, parce qu'après tout, on n'est que des cuisiniers et qu'on n'a pas inventé la poudre, quoi.
Donc, avec quel modèle est-ce que vous avez grandi, vous ? Quelle figure tutélaire qui vous ont enseigné ça, justement ? Votre grand-mère dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, alors mes deux grand-mères ont eu vraiment une grande importance, et dans mon éducation et puis dans mes rêves, ça c'est clair.
L'arrière-grand-mère aussi, je crois.
Et Hortense, oui, bien
sûr. Hortense.
Ouais, Hortense. Mais alors Hortense, c'est marrant parce que Hortense, alors c'était quelqu'un qui n'aimait pas du tout manger, qui n'aimait pas du tout cuisiner. Voilà, donc qui était même peut-être parfois un peu égoïste. Et donc mais ça n'empêche que j'avais une passion pour mon arrière-grand-mère.
Il fallait bien qu'elle cuisine quand même. Quelle était sa spécialité ?
Non, mais je peux pas vous parler des spécialités d'Hortense parce que non, elle cuisinait pas du tout. Le seul truc qu'elle avait, mais elle prenait tout à la fin de chaque repas, elle prenait un fruit et c'était pas trop de la cuisine. Hein, et elle avait toujours une bouteille de mousseux. C'était pas du champagne, c'était du mousseux qu'elle coupait avec de l'eau. Elle faisait moitié mousseux, moitié eau, et elle trempait un boudoir dedans avec un fruit. Ça, c'était un truc de c'était sa gourmandise, on va dire.
Je suis sûr que c'était délicieux.
Sinon, ouais, sans doute.
Dis-moi, à quel âge est-ce que vous avez goûté ces boudoirs trempés dans le mousseux, Hélène Darroze ?
Je me souviens pas, mais je sais. Moi, j'ai pas été addict. Hein.
En tout cas, c'est quand même pas mal parce que vous nous faites passer au sucré. Et ça me réjouit, si vous le voulez bien. Avec The Archives, tiens, Sugar en 1969. Vous êtes sur France Inter avec Hélène Darroze. Vous écoutez Boomerang un mercredi matin. Miam, miam. Sugar.
Of loving you. I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Ah, sugar.
Sugar, you are my candy
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors, pas de toc, pas de tablier. Non, mais franchement, je sais que cette émission n'est pas filmée. Est-ce que c'est une raison pour nous priver d'un beau spectacle? Heureusement, avec sa bonhomie naturelle, elle vous ferait avaler n'importe quoi. L'œil bleu, le cheveu blond, la main ferme et imprévisible. On l'imagine devant une marmite jetant par pincée inspirée les précieux ingrédients d'une potion magique. Une druidesse, en fait. Une druidesse des Landes, avec sa chemise rayée, rouge et blanche. La cuisinière, Hélène Darroze, invitée de Boomerang ce matin pour Joya. Son nouveau livre de recettes en librairie. Demain, un livre où on trouve des recettes pour chaque moment de la journée. Et comme il est 9h et quelques, vous me connaissez, je me suis penché sur les recettes du petit déjeuner. Et là, patatras.
Vous avez pris les pancakes.
Ah ben non, je tombe sur un plat qui m'a décontenancé. Hélène, le boudin noir. Fait maison, œuf au plat, condiment au pimientos del piquillo. Du boudin noir au petit déjeuner. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh ben moi j'adore le boudin, voilà, c'est tout. Et voilà, et moi j'adore manger salé le matin. Donc,
voilà. Quel est le secret d'un bon boudin?
Bah, le secret d'un bon boudin, c'est un bon cochon.
En réalité, c'est un bon sang, Hélène.
Ouais,
ce qui fait
c'est
de
du sang. Voilà, idéalement le boudin voilà. Alors, c'est pas ce qu'on fait nous à Joya, parce que hélas, on peut pas le faire. Mais voilà, le boudin, il faut le faire aussitôt avec le sang du cochon égorgé. Quoi, ça c'est voilà. Ça,
c'est quand même très particulier, Hélène. Mais comment est-ce qu'on achète ce sang et sous quel conditionnement? En bidon, en bouteille, en gourde?
Il faut demander à son boucher, hein, surtout pas en bouteille plastique. Hein.
Non, bah certainement pas en bouteille plastique. Enfin, cela dit, là, vous venez juste d'effrayer toute la France.
Il faut demander à son boucher d'acheter du sang de cochon. Mais voilà, on l'achète. Il est conditionné en poche, je pense. Voilà, c'est.
Et vous voyez à quel point c'est difficile aujourd'hui de dire ça. C'est intéressant quand même, parce de penser qu'on se fait pas non plus des amis aussi auprès des végétariens, des véganes.
C'est sûr.
Une question que vous vous posez parfois, celle de manger autrement, radicalement autrement. Question que se pose de plus en plus de gens.
De manger végan, ouais, non, sincèrement, non. Je ne me pose pas cette question-là parce que non.
Parce que culturellement, c'est impossible.
Culturellement, c'est pas tellement possible, non. C'est pas tellement possible.
Et comme expérience.
Mais ça n'empêche que j'adore cuisiner les légumes et que j'en cuisine beaucoup et de plus en plus. Et voilà. Mais après, je pense qu'il y a, il y a une pêche responsable, il y a un élevage responsable et que voilà, il faut de plus en plus se cantonner à ça.
Et un restaurant, Hélène Darroze, végétarien ou vegan, ne serait-ce que pour l'expérience.
Je me suis dit à un moment donné, enfin, il y a des moments où je me dis que ça pourrait être intéressant, que ça, ouais. En termes, mais c'est plus en termes de démarche créative presque que de démarche responsable.
Alors, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans votre approche de la cuisine, c'est que vous dites que chez vous, lorsque vous créez une recette, c'est toujours une émotion. C'est avant toute chose de l'émotion.
Mais oui, il faut aller chercher en soi. Il faut raconter une histoire, quoi. Il faut parler de soi. Il faut aller chercher en soi.
Alors,
cette
vous
émotion.
Allez nous en donner de l'émotion ce matin. Ah oui, parce que je vous ai demandé de réfléchir à une recette inédite, une recette qui serait pas dans un de vos livres pour la partager avec les auditeurs. Et vous avez
j'ai pas
d'asperges.
Trop réfléchi, mais voilà, on va parler d'asperges, puisqu'on en a beaucoup parlé et que c'est la saison et que voilà, moi les asperges blanches, j'allais les ramasser avec mon grand-père qui avait un petit champ, quoi, hein, et je me souviens toujours, vous savez, quand on plante la gouge comme ça dans le sable des Landes, et clac, hop, on coupe l'asperge, ça fait un petit clac ce bruit-là, je l'ai dans la tête, et après quand on épluche l'asperge comme ça et que ça tombe sur du papier journal, parce qu'on utilisait du papier journal pour ramasser les débris, quoi. Enfin, les épluchures, et qu'après on les mettait au poulailler, quoi. Hein.
Alors on en fait quoi de cette asperge?
Alors cette asperge, bon, tout simplement, on va la blanchir. On pourrait la cuire, on pourrait la mettre dans du papier aluminium et la cuire comme ça sous de la braise si on a une cheminée. Mais bon, plus simplement, on va la, tout simplement la cuire dans de l'eau bouillante salée. Moi, je les aime un peu fondantes. Je ne les aime pas trop quand elles craquent. Moi, j'aime quand elles sont un peu fondantes. Et puis, à côté, on va faire cuire des œufs durs. Voilà, et on va faire une petite sauce avec le blanc des œufs durs hachés, le jaune des œufs durs râpés comme ça à la mandoline, des câpres, de la ciboulette, de l'huile d'olive, quoi. Ça va être notre base de sauce. Et à côté, on va prendre des palourdes, des coques, des couteaux, des coquillages. On va les ouvrir comme ça avec juste un peu d'échalotes et de vin blanc et récupérer toute la chair des coquillages. Le couteau, on va le couper en petits tronçons. mélanger ça encore avec cette sauce, ajouter un peu de jus de cuisson qui va être un peu iodé, voilà. Et puis voilà, tout simplement avec cette sauce à base d'œufs et de coquillages et de ciboulette, mais on peut aussi rajouter du persil, on peut rajouter de l'estragon, un peu de coriandre, pourquoi pas. On va aller comme ça napper nos asperges encore tièdes. Il faut vraiment les cuire au dernier moment pour qu'elles soient tièdes. Il faut pas qu'elles sortent. Il faut pas les cuire, les mettre au frigo et les ressortir. Ça c'est pas bon. Il faut les cuire, les laisser comme ça tempérer et les manger après.
Je peux vous dire un secret?
Quoi?
Je préfère ça que le boudin. Merci infiniment, Hélène Darroze, d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci pour l'émotion aussi. Je rappelle que Joya, votre nouveau livre de recettes, sort demain aux éditions Cherche Midi, que c'est un événement et que c'est évidemment un régal. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers.